Vous êtes sur RTL.
Fête de fin d'année et une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé les meilleures fêtes de Noël possibles malgré la période un peu particulière que nous traversons tous. On est samedi matin, vous êtes ici chez vous et c'est l'heure de Nous Voilà Bien, votre émission conso d'RTL. C'est parti pour le sommaire du jour. Un Français sur trois est déçu de ses cadeaux de Noël. Peut-être en faites-vous partie. Alors revendre ce qui nous a été offert est-il une bonne option? Réponse avec Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. Noël, c'est fini, mais la Saint-Sylvestre, c'est pour jeudi prochain et on a très très envie de boire un coup à la fin de cette année 2020, n'est-ce pas? On opte pour le champagne ou le crémant? À consommer avec modération, bien évidemment. Benjamin Douriez, rédacteur en chef, adjoint de 60 millions de consommateurs, nous dévoile les surprenants résultats d'une dégustation à la aveugle. On vient de fêter Noël et les lendemains de fête et on se retrouve souvent avec plein de restes sans savoir vraiment quoi en faire. Alors comment les cuisiner? Sonia Esguignan, cuisinière, auteure et journaliste, nous aide à sublimer ce qu'il reste aujourd'hui dans notre frigo.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, ce chanteur s'appelle Michel Vedette. Voilà, ça ne s'invente pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu ce qu'on se dit parfois face aux cadeaux de Noël. Bonjour Armelle Lévy,
bonjour.
Joyeux Noël.
Merci, joyeux Noël à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Ça y est, Noël, sa magie, c'est fini. Mais un autre rituel a parfois lieu. Une fois les cadeaux déballés, c'est quand le Père Noël n'a pas fait mouche. La revente des cadeaux, ça s'est démocratisé ou ça reste encore tabou? Est-ce qu'on peut vraiment en parler?
Ah bien, avant, il y a encore 15 ans, cela paraissait impensable. Ouais. Honteux de revendre un cadeau, un sacrilège. Mais maintenant, disons, depuis 10 ans, c'est devenu une pratique répandue. Un Français sur 10 l'a déjà fait et un sur 3 dit qu'il pourrait le faire un jour. En fait, tout est parti de la crise économique de 2008, donc d'un besoin d'argent qui était fort. Et le déclencheur, la conjonction, c'est le moment du développement des plateformes comme Le Bon Coin ou eBay qui deviennent à l'époque très connues et faciles d'accès. Donc il y a un effet boule de neige accentué par le bouche à oreille. Les Français, entendant parler de la revendre des cadeaux d'une année sur l'autre sur Internet, se disent « Ah bah oui, moi aussi !» Donc l'idée fait son chemin de pouvoir vendre et même acheter des cadeaux dès le lendemain de Noël depuis son canapé.
Donc en fait, on revend avant tout ces cadeaux pour des questions de pouvoir d'achat, si je vous comprends bien.
Oui, pour récolter de l'argent. Ouais. Et certains n'hésitent pas à revendre même plusieurs cadeaux pour pouvoir s'offrir l'objet de leur rêve, la dernière console de jeu ou le téléphone portable dernier cri. Mais il y a une deuxième raison qui pousse à revendre un cadeau de Noël. C'est le cadeau en double. Vous aimez lire, Flavie?
Oui, c'est vrai.
Vous avez peut-être reçu cette année deux fois le prix Goncourt.
L'anomalie, oui, voilà. Absolument.
Donc vous revendez l'un des deux plutôt que d'entasser. La troisième raison, c'est quand le cadeau ne vous plaît pas. Entre 30 et 40% des Français disent chaque année recevoir au moins un présent non désiré. Question de goût. Oh, ce petit pull cacadois ne me bat pas vraiment au teint. Mais là, attention, tout dépend de qui vous l'offre. Ouais. C'est Dominique Desjeux, un anthropologue professeur à la Sorbonne, qui explique cela très bien. Vous avez un côté émotionnel dans les cadeaux. Il y a le cadeau froid qui ne représente rien pour vous ou le cadeau chaud, symbolique, affectif. Et plus on se sent loin affectivement de l'objet ou de la personne qui l'offre, moins ça pose de problème de le revendre.
Oui, c'est vrai.
Et il a remarqué aussi que dans tous les pays, la belle-mère a toujours une image très négative. Donc
oui,
le
ça,
cadeau
c'est universel.
Qu'on n'hésite pas du tout à revendre, c'est celui de la belle-mère ou de son ex aussi. Et ce qui va avec, c'est les comportements qui sont en train de changer à Noël. Cette fois, c'est Pascal Ebel du Crédoc, le centre de recherche et d'études des conditions de vie qu'il a analysées. À Noël, les Français ont pris conscience qu'ils s'imposaient des rituels qui n'étaient pas forcément voulus par tous. Certains ne s'obligent plus à penser aux cadeaux pendant des mois avec la crainte de tomber à côté. Ce cadeau me plaît, mais pas forcément à celui à qui va le recevoir. Donc les familles en ont discuté, en envoyant un peu valser les traditions. Cette nouvelle tendance a favorisé également l'essor des chèques cadeaux pour éviter la déception. Et en ces périodes difficiles, il a été décidé qu'on ne faisait plus forcément de cadeaux aux adultes à Noël. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène. On fait un cadeau juste symbolique à 5 euros tiré au hasard.
En fait, c'est un véritable marché, celui de la revente des cadeaux, puisque c'est notre sujet du jour.
Ah oui, il n'y a qu'à voir les volumes de transactions action là maintenant au moment où l'on se parle. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les acheteurs se disent qu'ils peuvent faire des bonnes affaires, donc les vendeurs se disent aussi que c'est le bon moment, la bonne date pour proposer des objets sur Internet. Le géant eBay en France enregistre par exemple 3 millions de nouvelles annonces entre le 25 décembre et le 3 janvier, dont 800 000 rien que pour la période là en ce moment entre le 25 et le 26 décembre. Juste sur ce site, il se revend pour 313 millions d'euros de cadeaux de Noël. Cela va avec le boom du marché de l'occasion. Il est estimé à plus de 7 milliards d'euros par an en France, dont 1,2 milliard pour les vêtements.
Ouais, c'est énorme. Et est-ce qu'on peut vraiment tout revendre? Parce que vous parliez du pull caca doigt là, offert par la belle-mère. Mais est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui tout recycler, je dirais?
Oui, mais c'est plus compliqué pour tout ce qui est intime. On a du mal à trouver un acheteur, par exemple, pour les chaussures et tout ce qui est relatif à l'hygiène. La lingerie d'occasion, on n'a pas forcément envie de porter la petite culotte portée par d'autres. Et ce qui est moins facile à vendre également, c'est tout ce qui est gros, encombrant, donc moins facile à empaqueter et à livrer. C'est une logistique un peu plus compliquée.
Comme le gros électroménager, on ne s'offre pas un frigo à Noël, quoi. On ne cherche pas forcément à le revendre.
À le revendre, surtout.
Quels sont les cadeaux, justement, les plus revendus?
Pour les adultes, ce sont les livres ou les CD en doublon. Ouais. Pour les enfants, alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on leur achète et ce qu'ils ont envie de recevoir. Par exemple, ce qu'on offre le plus aux enfants, ce sont des jeux éducatifs. Et ce que les enfants aiment, eux, ce sont des jeux plus fun, plus plaisir, on va dire. Donc on va retrouver sur Internet plein de jeux éducatifs et aussi des jeux vidéo qu'ils auront eu cette fois en doublon.
Et justement, pour ce genre de choses, il y a des sites spécialisés?
Oui, les sites de vente entre particuliers sans frais pour le vendeur fleurissent en ce moment sur la toile. Après Zalando, Jacadi, Promode, les grandes plateformes s'emparent de ce marché juteux. Début janvier, vous verrez apparaître La Reboucle, l'offre seconde main de La Redoute. Et ce mois-ci, c'est Cdiscount qui vient de créer Cdiscount Occasion pour concurrencer Le Bon Coin, eBay et aussi, surtout, Vinted. Vinted est spécialisé dans la mode d'occasion et compte déjà 12 millions d'inscrits en France. Le site a fait une percée fulgurante et se retrouve classé numéro 3 des sites de e-commerce en France. Pour les articles de sport d'occasion, vous avez Link Sport ou encore Trocathlon, le site d'occasion de Decathlon. Passons cette fois au rayon luxe d'occasion. Il existe des sites comme Vestiaire Collective ou Instant Luxe. Mais maintenant, effectivement, les mentalités ont changé. Acheter un produit d'occasion n'est plus une honte, c'est la fierté d'avoir réalisé une bonne affaire.
Et alors justement, comment est-ce qu'on peut mettre toutes les chances de son côté pour revendre son cadeau au plus vite?
Alors déjà, n'hésitez pas à regarder le prix des autres. Si vous mettez moins cher, vous êtes sûr de revendre, indiqué le prix neuf, et si vous vendez moins cher, le pourcentage de réduction. Après, vous le revendrez mieux si l'article est encore dans son emballage tout neuf, pas ouvert. Et n'hésitez pas à préciser que c'est un cadeau de Noël, il aura d'autant plus de chances de trouver preneur.
Oui, parce que c'est un cadeau tout frais.
C'est tout neuf, tout beau.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand même pour éviter les arnaques? Car il doit y en avoir forcément.
Oui, les transactions entre particuliers, il faut le savoir, ne relèvent pas du droit des consommateurs. Donc, avec les petites annonces en ligne, quand vous achetez, vous n'avez pas le droit de changer d'avis, pas de droit de rétractation, ni de garantie légale de conformité. Donc, si le cadeau arrive cassé, pas de recours. Sauf si vous restez sur des grosses plateformes qui proposent de plus en plus de médiations. Par exemple, en cas de litige, Vinted s'engage à rembourser l'acheteur si l'article reçu n'est pas conforme à ce qui était promis. Et en tout cas, pour tout contact entre l'acheteur et le vendeur, restez toujours sur la plateforme. Maintenant, elle propose des paiements en ligne sécurisés. Et si l'acheteur essaye de contourner la plateforme, fuyez. N'acceptez pas de mandat cash, des paiements Western Union. Et quand l'acheteur commence à vous parler d'avancer ou de payer des droits de douane, fuyez encore, là ça sent l'arnaque. Gardez toujours en tête que le site n'a aucune responsabilité juridique, c'est juste une plateforme de mise en relation.
Allez, on n'en a pas fini, évidemment, des questions sur cette nouvelle tendance depuis 10 ans qui est de revendre ses cadeaux de Noël. Vous en faites peut-être partie. Eh bien, on se retrouvera dans un instant pour en parler avec Armelle Lévy. Et puis ensuite, on parlera champagne et crémant. Benjamin Dourier pourra nous révéler aussi l'enquête de 60 millions de consommateurs. Et puis, le frigo est plein aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces restes? Sonia Esguignon a la réponse. A tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Bon, nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
De bonnes recettes pour aménager les restes de Noël, ce sera dans un instant avec Sonia Esguignon. Champagne ou crémant, Benjamin Dourier nous éclairera sur le sujet. Mais pour l'heure, place à la revente des cadeaux de Noël avec la mère Noël d'RTL, Armelle Lévy.
J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout.
Oh non, écoutez, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui? Ah ben, bien sûr. Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors.
Oh, c'est formidable, Thérèse. Armel Lévy, on ne peut pas se passer évidemment du Père Noël qui est une ordure. Et ça nous fait toujours rigoler, même quand les années passent. Vous êtes journaliste au service Éco et Conso d'RTL. Avec vous aujourd'hui, on parle de la revente des cadeaux de Noël. Véritable phénomène, hein, on peut le dire. Et puis surtout, on est tous décomplexés aujourd'hui face à cet acte de vente et de rachat. Après les fêtes, est-ce qu'on peut revendre ces cadeaux ailleurs que sur Internet?
Oui, il y a les grosses enseignes de dépôt-vente comme Cash Converter ou Easy Cash, leader en France sur la vente et le rachat de produits reconditionnés. Au lendemain de Noël, ils enregistrent une hausse de 40% d'activité. Donc vous pouvez apporter un bijou, un DVD, un téléphone portable, un mixeur à soupe. Ils vous le rachètent et le reconditionnent en France. Easy Cash, ouais, est 1200 salariés, hein, en France et plus de 9 millions de clients par an. Les produits sont garantis un an. Vous avez aussi plein de recycleries en France avec derrière des emplois et de la réinsertion sociale. Sinon, il y a les vide-greniers, pas très anti-Covid en ce moment, c'est pas trop la saison, hein. Mais après, sur Internet, vous pouvez aussi trouver des sites pour louer vos cadeaux de Noël, ou encore les troquer, les échanger, et même les vendre aux enchères, sur Inter-Enchères. Sinon, vous pouvez toujours les donner à, ouais, des associations.
Là, c'est un cadeau. Donc, l'argent du cadeau revendu, il sert à s'acheter quelque chose qui nous plaît vraiment, en fait. C'est ça, le but.
Oui, c'est ça. En ce moment, on a quand même une famille sur cinq qui se serre la ceinture et qui ne l'avoue pas, hein. 56% des gens qui vont au Resto du Cœur aujourd'hui ont moins de 29, ouais, ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu de job d'été, mmh, pas de petit boulot non plus dans les stations d'hiver. Donc, ils ne le diront pas forcément, mais ils vont revendre leur cadeau pour s'acheter un nouveau smartphone. Ce sont des choses qu'on cache.
Est-ce qu'on l'avoue, donc on l'avoue pas forcément en fait à celui qui a offert le cadeau?
Pas toujours.
On lui,
hein,
dit pas j'ai revendu ton cadeau.
Non, non, seul un tiers des revendeurs de cadeaux l'avoue, il paraît, hein, ils le disent. Ouais. En même temps, deux tiers des Français disent qu'ils ne le comprendraient pas en apprenant la nouvelle. 19% seraient même vexés et 16% vraiment tristes. Flavie, en fait, s'il y a un tabou, il est bien là. C'est très codé les cadeaux. Il y a une charge sociale et émotionnelle. C'est comme la cuisine. La valeur de la réception n'est pas liée au prix de ce que vous allez mettre dans l'assiette. Mais autant que vous avez passé à tout préparer. Donc même si c'est moyennement bon, si on voit que vous êtes donné du mal, on dira c'était très bon. Là, c'est pareil pour les cadeaux. Ceux qui veulent vraiment vous faire une surprise parce qu'ils cherchent à vous faire plaisir n'ont pas vraiment envie que vous alliez revendre leur cadeau. Là, ça leur fait de la peine.
Le grand gagnant, c'est l'acheteur, en fait.
Ah oui. Au cours du temps, comme il y a de plus en plus de vendeurs, les prix baissent et l'on trouve de tout. Mais finalement, l'un des grands gagnants aussi, c'est tout le secteur de la logistique, la poste et les livreurs qui font recirculer les paquets et les acteurs de l'économie circulaire. On ne jette pas, on donne une deuxième vie aux objets. C'est devenu une vraie tendance de fond.
Eh bien voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations qui vont nous éclairer justement aujourd'hui. Merci Armel Lévy. Prenez bien soin de vous.
Merci, hein, vous aussi.
Et vous n'avez pas mal à la tête? Vous avez bu quoi hier? Du champagne?
Du champagne, moi j'aime bien. Puis le vin aussi. Enfin bon, je dis pas tout.
Non, non, mais vous connaissez la différence entre le champagne et le crémant?
C'est pas le même terroir.
Eh bien voilà, c'est ce qu'on va demander dans un instant à Benjamin Doyez, justement, qui est rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Je vous embrasse, Armel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Champagne, nous chante Jacques Higelin. Bonjour Benjamin Doyez.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci. Et puis joyeux Noël, Thérèse.
Joyeux Noël à vous.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs. Je le demandais il y a un instant à Armel Lévy, la différence entre un crémant et un champagne.
Elle a tout bon, hein, parce qu'effectivement, la vraie différence, c'est le terroir, hein, des régions différentes. Il y a quand même un point commun entre champagne et crémant. C'est un procédé d'élaboration qui est quasiment identique, avec deux fermentations successives. Une première fermentation pour faire le vin et une deuxième fermentation en bouteille, où les bulles commencent à apparaître. Mais effectivement, la différence, c'est que le champagne, c'est réservé à la région du même nom, la plus prestigieuse.
Et alors, où est produit le crémant, précisément?
Alors, il n'y a pas un crémant, hein, il y a plusieurs, ouais, crémants. Il y a 8 appellations différentes, réparties un peu partout en France. Donc, les plus connues, c'est le crémant d'Alsace, le crémant de Bourgogne. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a du crémant du Jura, du crémant de Bordeaux, hein. Il y a du crémant à Bordeaux aussi, du crémant de Limoux, par exemple. Donc, voilà, les 8 régions un peu partout en France.
Mais la différence, elle est aussi dans le prix. On a vraiment sentiment qu'un crémant est meilleur marché qu'un champagne.
Oui, oui, c'est vrai que l'écart est important. Ouais. Grosso modo, un sacrément, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'un champagne. Pour donner des repères en termes de prix, un champagne d'entrée de gamme en grande surface, c'est, on va dire, entre 13 et 15 euros la bouteille, alors qu'un Crémant, on en trouve à 6, 7, 8 euros sans problème.
Et ça reste en fait un produit de luxe, le champagne?
Alors, en termes de prix, oui. La grande question, c'est est-ce que c'est toujours justifié par la qualité du produit?
Ben, c'est ça.
Ben, ça fait partie des choses qu'on a essayé de savoir avec une dégustation à l'aveugle qu'on a réalisée.
Et oui.
Millions de consommateurs, on va en parler, je crois.
Ben oui, alors justement, qu'est-ce qu'elle dit, cette dégustation à l'aveugle?
D'abord, pour préciser ce que c'est qu'une dégustation à l'aveugle, ça veut dire que les jurés, les spécialistes qui ont dégusté, ben, ils ne savaient pas ce qu'ils dégustaient. On leur a servi dans un ordre aléatoire des Crémants, des champagnes, sans qu'ils sachent quel verre venait de champagne et quel verre était du Crémant. En l'occurrence, c'était des Crémants de Bourgogne qu'on leur a fait déguster. Donc, cette méthode, ben, ça permet d'avoir une notation sans préjugés. Et ben, à l'arrivée, ben, il y a certains Crémants qui rivalisent parfaitement avec des champagnes d'entrée de gamme qui sont aussi bien, parfois même un petit peu mieux noté.
Mais c'est dingue parce que en fait, cette étude nous démontre que le Crémant n'est pas une sorte de champagne low cost en réalité.
Alors non, pas forcément. Alors après, il faut aussi se garder de généraliser parce qu'il y a aussi des Crémants qui sont moins bien notés. Dans les champagnes, il y a aussi des performances très variables. Il y en a qui sont très bien notés, d'autres un peu moins. Donc effectivement, c'est difficile de généraliser. Mais il y a effectivement, en tout cas, certains Crémants de Bourgogne qu'on a dégustés qui sont très bons.
Avec le fameux succès d'une veuve, écrivez-vous.
Oui, c'est vrai qu'en tout cas pour les Crémants de Bourgogne, il y a une marque qui domine de façon extrêmement importante le marché, qui est Veuve en Balle. Donc effectivement, il y a une des références Veuve en Balle qu'on a dégustée qui est très bien notée, mais il faut savoir aussi que Veuve en Balle se cache parfois derrière d'autres noms de marques, parce qu'il y a des enseignes de la grande distribution qui ont leur propre marque de Crémants de Bourgogne, et derrière, elles font fabriquer par Veuve en Balle.
Alors, en fait, il existe différentes gammes de champagne. Qu'est-ce qui change, par exemple, entre un premier cru et un grand cru ?
Globalement, premier cru, grand cru, c'est des champagnes qui viennent de certaines communes qui ont été distinguées pour des raisons historiques. Alors, grand cru, il y a 17 communes qui sont classées grand cru et il y a, je crois, une quarantaine de communes qui sont classées premier cru. Dans un cas comme dans l'autre, c'est des cuvées qui sont supposées supérieures, donc en principe de meilleure qualité qu'un champagne brut classique, j'allais dire.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va poursuivre notre conversation autour de cette enquête que vous avez donc menée pour 60 millions de consommateurs avec des champagnes et des Crémants notés donc dans votre magazine en kiosque ce mois-ci. Et puis ensuite, on parlera de cuisine avec Sonia Esgulian. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous en ce 26 décembre dans Nous Voilà Bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, Sonia Esgulian va nous prouver que les restes, ce sont des trésors de notre frigo. Mais pour l'heure, chin, on parle champagne et Crémant avec Benjamin Dourrier, rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs.
Mamie, je vous invite champagne pour l'amour de celle qui m'a laissé tomber.
Champagne chantée par Hervé Villard. On aime bien comme ça commencer le week-end avec de bonnes chansons qu'on va avoir dans la tête toute la journée. Benjamin Dourrier, merci donc d'être avec nous. On va poursuivre notre conversation autour du champagne et du Crémant à consommer évidemment avec modération. On a parlé il y a un instant de cette dégustation à l'aveugle avec des échantillons de différents champagnes et Crémants qui vous a laissé quand même assez surpris du résultat. C'est-à-dire que ça vient contraindre et froisser certaines idées reçues que l'on peut avoir sur le sujet. Quel est donc le meilleur rapport qualité-prix de votre enquête ?
On a distingué dans chaque catégorie de vins effervescents qui ont été dégustés les meilleurs. En Crémant de Bourgogne, on parlait tout à l'heure de Veuve en Balle, on a une des références Veuve en Balle, le Brut Prestige en l'occurrence, qui est très bien notée. Il y a également, par exemple, une bouteille Expert Club, c'est une marque de l'enseigne Intermarché qui est également très bien notée par notre jury de dégustation. C'est des jurés de professionnels, des spécialistes. En champagne brut blanc, on a là une marque de Carrefour, un champagne Charles de Courance. C'est donc une marque de Carrefour. On ne sait pas forcément qu'il y a Carrefour qui se cache derrière ce nom, mais qui est très bien noté et qui a un prix extrêmement intéressant puisqu'on la trouve à moins de 15 euros la bouteille.
Vous l'appelez le couteau suisse de la bulle. Il est plaisant, il est polyvalent, il est très économique.
Ça, c'est le terme de notre jury de dégustateur.
Oui, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte que il est de très bons champagnes et de très bons créments à des prix, je dirais, abordables. C'est vrai qu'un champagne à 14,50 € ou un crément à 6,20 €, tout à coup, ça change quand même la donne et le budget pendant les fêtes. Le crément, justement, c'est mieux en apéritif ou à table ?
À l'issue de cette dégustation, en échangeant avec tous nos dégustateurs, nous, le conseil qu'on donne, c'est ce qu'on écrit dans notre magazine, c'est ne pas hésiter à prendre un bon crément pour l'apéritif, puisqu'il y en a des bons, donc là, il ne faut pas hésiter. En revanche, c'est vrai que pour le repas, certains champagnes, dans ceux qui ont été dégustés, des champagnes premier cru, grand cru, semblent plus adaptés pour vous accompagner tout au long du repas du réveillon, par exemple.
Vous avez aussi testé des vins bio, et là, pour le coup, ça a été un peu la surprise.
Oui, malheureusement.
Alors, pas à la hauteur, pas encore, c'est ça.
Alors, en tout cas, dans ceux qu'on a dégustés, c'est vrai que notre sélection, ce qu'on a soumis à notre jury de dégustateurs, c'est essentiellement des bouteilles qu'on trouve dans la grande distribution, donc qu'on trouve de façon très large un peu partout. Mais c'est vrai que du coup, dans ces bouteilles bio, c'est un petit peu décevant. Donc sans doute qu'en matière de bio, il faut sans doute aller chercher des cuvées plutôt chez des cavistes que dans la grande distribution. On aura peut-être plus de chances d'avoir des bonnes surprises.
Est-ce que la crise de la Covid a eu une répercussion sur le prix des bouteilles, Benjamin ?
Alors en tout cas, en champagne, c'est possible. C'est vrai que le champagne, ça marche beaucoup à l'exportation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses perturbées cette année avec la crise sanitaire. Et du coup, il y a des stocks assez importants en champagne, donc il est possible qu'il y ait des baisses de prix, des bonnes affaires en matière de champagne en cette fin d'année, donc c'est des choses qu'il faut surveiller.
Très bien, merci en tout cas pour cette enquête très intéressante dans 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque, une enquête à garder chez soi toujours, parce que ça nous donne vraiment une idée et des champagnes et des créments qui peuvent accompagner nos repas de fête, parce que ça n'est pas encore terminé justement cette période, encore quelques jours pour finir 2020. Merci d'avoir été avec nous, Benjamin Dorier. Grâce à vous, on sait quoi boire. Et dans un instant, avec Sonia Esguignon, on va savoir quoi manger. À bientôt, Benjamin.
Il y en a plus.
Il y en a plus.
Il y en a plus.
Plus.
Il y en a plus.
Oh, il y en a plus, là.
Vous pariez ? Quand il y en a plus, il y en a encore.
Bonjour, Sonia Esguignon.
Bonjour, Flavie.
Joyeux Noël, Sonia.
Joyeux Noël à vous aussi.
Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous êtes cuisinière, auteure et journaliste. Et les repas de Noël de jeudi et d'hier nous ont laissé plein de restes. Il y en a plein, les frigos. On ne sait jamais trop quoi en faire. Surtout, on ne jette pas.
Bah oui, moi je dis youpi.
Bah voilà, c'est ça.
Ou
la bonne nouvelle.
Oui, en fait, les entames, par exemple, du foie gras ou le reste de pain d'épices, ou il reste aussi du pain de seigle parce qu'on a acheté du pain de seigle pour les huîtres, ça, c'est vraiment des ingrédients qui sont très, très inspirants. Par exemple, j'ai un petit croque foie gras que je fais avec des restes. Alors, moi, j'aime bien avec le pain d'épices, mais ça marche très, très bien avec la brioche ou le pain de seigle que vous avez acheté pour les huîtres.
Ouais.
Et en fait, ce petit croque foie gras, ça ressemble un tout petit peu à un croque-monsieur, mais beaucoup plus léger. On est au lendemain des fêtes, donc on y va mollo. Donc l'idée, c'est de récupérer ce qu'on a dans le frigo. Il y a une deuxième reste, moi, que j'adore. C'est, vous savez, les petites échalotes que vous avez réalisées pour les huîtres. On coupe des échalotes en tout petits dés. Et puis on va ajouter du vinaigre. Ben, en général, on en fait toujours trop. Donc là, surtout, ça, on ne jette pas. Parce que ça va servir à cuisiner des petites sauces. Là, donc, pour mon croque foie gras, je vais émincer des oignons. Je vais les faire à peine suer dans une poêle avec quelques gouttes d'huile d'arachide et je vais déglacer ces oignons avec ce vinaigre. D'abord les oignons, surtout quand on utilise de l'oignon violet, ça va prendre une très jolie couleur. Et les échalotes et le vinaigre, ça va donner un goût très doux et vraiment très élégant à cette petite sauce toute simple. On ajoute un petit peu de piment d'Espelette, c'est toujours bien, une petite pincée. Et ensuite, sur le plan de travail, on va découper le pain d'épices. Alors, on peut le découper joliment en triangle. On va mettre une petite couche d'oignon, des lamelles de champignons, par exemple, parce qu'il faut un petit peu de produits frais. Par exemple, ça peut être des champignons, ça peut être des lamelles de céleri branche très, très finement découpées. Et puis, il nous reste toujours un petit peu de foie gras. Vous savez, les entames qu'on n'a pas osé servir parce qu'elles sont pas très jolies, elles ont une forme pas très chouette. Donc ça, ces petites entames, on va les découper en petits copeaux. On remet une couche soit de brioche, soit de pain d'épices ou ce que vous avez comme pain de reste. Et vous faites dorer, en fait, à la poêle des deux côtés ce petit croque-monsieur, on va dire, qui va être très goûteux, mais en même temps assez léger. Il n'y a pas le côté un peu lourd comme ça d'un croque-monsieur. Ça, c'est chouette parce que ça vous a utilisé déjà une belle partie de ce qui restait dans le frigo.
C'est bien ça, dites donc. Et je pensais aussi, vous savez, il y a une tradition aujourd'hui, c'est d'avoir du saumon fumé, parce que vous parliez des huîtres. Quand on est plutôt côté mer, on prend du saumon fumé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec
Alors, ça cuit très très bien, le saumon fumé. Ben oui, parce qu'en fait, on n'y pense pas. Le saumon fumé, on pense qu'on le consomme que sur les petits toasts. Et en fait, ça va être génial. Vous les coupez en petits dés. Vous mettez ça dans une sauce. Alors, en général, moi, je ne mets pas des sauces très épaisses avec de la crème, etc., parce que c'est déjà bien riche. En fait, l'astuce, par exemple, toujours avec mes champignons de Paris, je fais sauter quelques champignons de Paris, je rajoute un petit bouillon de volaille, je mixe. Ça fait une sauce très onctueuse et très légère. Je rajoute les petits dés de saumon fumé. Et ça, je le sers, bah, pourquoi pas avec des coquillettes, ou on s'en sert pour faire un œuf cocotte, ou on s'en sert pour servir avec du riz. C'est tout simple, c'est très bon et c'est très parfumé.
Non, parce que c'est tellement dommage de jeter ce genre de choses.
Non.
Et alors, quand on a opté pour quelque chose d'un peu plus lourd, qui est l'escargot. Moi, je connais des gens qui ont fait des escargots à Noël. Qu'est-ce qu'on fait avec des rais escargots?
Alors, l'escargot, parce que là, j'ai pas d'idée. C'est pas facile parce que, en général, l'escargot, soit il a déjà cuit. Ça, c'est pas top parce que si l'escargot, on l'a déjà fait cuire, c'est un peu compliqué de le réutiliser. Alors, on peut le couper en petits dés et puis on met ni vu ni connu dans une petite sauce. Mais c'est pas forcément le top. En revanche, si l'escargot, vous avez acheté trop d'escargot en coquille et que vous ne l'avez pas utilisé, il y a les spaghettis avec le petit beurre d'escargot autour. Vous prenez une cuillère à café, vous retirez tout ce qu'il y a dans la coquille et en fait, vous allez faire sauter. Alors, ce qui est très très bon, c'est que vous rajoutez des petits pignons et éventuellement quelques petits morceaux de jambon cru s'il vous en reste et vous faites sauter ça avec les escargots et vous servez avec des spaghettis. C'est très très bon. On peut le servir aussi avec de la purée ou autre. Ça, l'escargot, ça peut cuire en dehors de la coquille. Si c'est déjà cuit, là je reconnais que c'est pas le top.
D'accord. Non mais alors donc on peut faire des pâtes aux escargots. Alors là moi c'est ma révélation de ce samedi matin. Bon, il y a encore plein de restes, hein, du poisson, de la viande, des légumes, des féculents, le fromage. Et puis est-ce qu'on peut faire des choses avec des fonds de bouteille, vous savez, de vin, de champagne et tout. On va en parler dans un instant. Ça y est, elle est partie, Sonia. En pleine forme. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Joyeux Noël, Thérèse. Eh bien, dis donc, on a plein de trucs dans le frigo, hein, parce qu'entre le 24 et le 25, évidemment, on a accumulé beaucoup de restes. Et grâce à Sonia Esguillan, le repas de fête continue. À table, il y a plein de trucs dans le frigo, il y a plein de restes. Et grâce à vous, Sonia, effectivement, on peut encore une fois se faire plaisir et surtout ne pas jeter, car quand même, on peut dire que cette période de fête, c'est bien souvent la grosse période de gros gaspillage alimentaire. Et c'est dommage quand on a de très bons produits. Les restes de poisson cuit, qu'est-ce qu'on peut faire?
Les rillettes, ça c'est top. Les rillettes, oui, en fait, bien. Alors, soit on est très très gourmand et on fait des rillettes en faisant une sorte de béchamel plein d'herbes, etc. On peut faire aussi des rillettes ultra bonnes, simplement avec du fromage à tartiner ou du fromage blanc. Ça, c'est top. On écrase à la fourchette le poisson. On évite de le mixer. Hein. En règle générale, c'est bien de laisser un petit peu de petites choses à mâcher. Hein. On passe pas tout au robot. On prend une fourchette. On écrase bien le poisson. On l'incorpore soit de la béchamel bien bien cuite et on mélange le tout. On met plein d'herbes ou des épices. Ou alors du fromage blanc ou du fromage à tartiner. Et là, on n'hésite pas sur les zestes de citron. On peut ajouter des petites herbes comme l'estragon. On ajoute des capres ou du cornichon. Ça, c'est top. Et surtout, ça permet, quand on va recevoir des copains dans quelques jours pour un apéro léger, avant d'attaquer le reste des fêtes, on a un tout petit peu de rillettes pour servir sur un toast.
C'est pas mal. Moi, je fais ça effectivement avec du kiri.
C'est parfait.
Et ça se conserve un peu, ça, ou pas?
Alors, le poisson cru, ça va, on va dire qu'on va le garder, aller 3-4 jours au frigo, pas plus.
On est bien d'accord.
Alors après, le poisson cru, cuit, ça se garde très bien au congélateur. Hein. Quand on a trop de restes, il ne faut pas hésiter à mettre dans des petits sachets ou dans des petites boîtes. On note bien ce qu'on congèle, parce qu'après, on n'identifie plus rien dans le congélateur.
Oui,
et on s'en sert au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter.
D'accord, ok. La viande, quand il nous reste de la viande rouge, ou je pense à la viande blanche aussi, pour ceux qui ont été au chapeau.
Ceux qui ont fait des poularde ou des choses comme ça, Alors, le top, là, c'est de refaire des repas jolis, parce qu'on est en période de fête, donc on a envie de se faire des jolies petites tables, même si on est 2, 4 ou 6, pas plus, hein, on n'oublie pas. En fait, on va faire... moi, j'adore faire des petites paupiètes, mais des paupiètes très, très simples. On prend une feuille de chou vert ou une feuille de chou violet, qu'on va faire blanchir, et en fait, on va mettre dans la paupiète ce qu'on a comme reste. Alors, par exemple, si on a fait cuire une belle volaille, on va émincer la volaille. Comme on a fait un petit bouillon aromatique, on a forcément mis, je sais pas moi, un petit bout de carotte, du céleri, etc. On récupère tout ça et on coupe en petits dés. En fait, on va faire une sorte de farce qu'on va envelopper dans la feuille de chou. Alors là, on met pas de sauce, en fait, parce que c'est, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très riche. On enveloppe le tout et on fait cuire soit à la vapeur, soit tout à l'heure, vous me parliez de reste de vin. Eh bien, c'est très simple de faire une petite sauce très rapide. On fait revenir quelques échalotes dans une sauteuse. On va à peine saupoudrer de farine et on va ajouter ce qui vous reste comme vin rouge ou comme vin blanc. Vous mélangez bien, vous laissez cuire et vous allez voir quand ça va réduire, ça va prendre un petit peu de corps, cette jolie petite sauce, et ça va vraiment parfumer vos petites paupiètes de légumes avec un tout petit peu de viande à l'intérieur. Ah,
super. Et reste de fromage aussi. Parce que c'est pareil, on fait des plateaux Maus Costo, on a déjà pris l'apéro, on a déjà dîné, et vous voyez, il y a toujours, des restes parce qu'en fait, on y va timidement sur le fromage en fin de repas, parce qu'on sait qu'il y a la suite avec la bûche. Donc là, il nous reste plein de trucs. On fait quoi? On fait une sauce de fromage pour les pâtes?
Alors, c'est ce que je fais systématiquement, mais il y a peut-être mieux. On peut faire des sauces pour les pâtes. Moi, je garde les fromages. Alors, je fais souvent des petits plats, par exemple, j'en profite pour tester des nouveaux cordons bleus. Genre, il reste du fromage bleu, soit du roquefort, soit de la fourme. Hop, je le glisse dans un peu de poulet. Et même un poulet qui a déjà cuit, ça marche aussi. Hein. S'il reste un peu de volaille, on fait aussi, ou des petites croquettes ou des façons cordon bleu. Et là, on utilise le fromage. Évidemment aussi, on peut faire des tout petits gratins, comme vous l'évoquiez. Alors là, pour le coup, on essaye de faire raisonnable et on utilise des légumes de saison. Gratin potimarron avec un bon camembert, c'est top. Donc on essaye, on se lâche, on met des petites graines par-dessus, ça fait un gratin très très aromatique, très goûteux, et en même temps on a utilisé les restes de fromage. Et puis moi je fais surtout des petits risottos rigolos, je vous en avais parlé il y a assez longtemps, mais je continue à parler de cette recette parce que je la trouve super. Tout quand il reste dans le placard plein de fonds de paquets de pâtes, genre 30 grammes de coquillettes, 20 grammes de spaghettis, enfin on ne sait plus quoi en faire de ces restes de pâtes, on les met dans un torchon, on prend un rouleau à pâtisserie, on ferme le torchon et on tape sur les pâtes, ça défoule pendant 10 minutes. Ouais. Et après, ces pâtes cassées, on les cuit comme un risotto, c'est-à-dire qu'on va mettre, on les met dans une casserole avec du bouillon. Et là, vous pouvez utiliser plein de restes de fromage. Alors, vous mélangez pas tous les fromages. Par exemple, s'il vous reste des fromages à pâte cuite, et ben, vous les coupez en petits dés, vous les mettez à l'intérieur du risotto au dernier moment, vous laissez bien fondre, et hop, on déguste, et on a vidé un petit peu le placard en même temps.
Bonne idée. Vous parliez du vin aussi, et nous, on parlait champagne avec Benjamin Dourier. On peut faire quelque chose avec du champagne?
Ah, le champagne, c'est top pour faire un petit dessert. Dessert plus léger et très original, on va faire en fait des petits gratins de fruits. On peut prendre des fruits exotiques ou une poire par exemple. Et on va d'abord soit la faire pocher dans un sirop ou même dans le champagne. Mm-hmm. Et on va prendre des œufs. Alors par exemple 3 œufs, on va mettre 50 grammes de sucre et on va bien fouetter ces œufs au robot. On laisse bien bien fouetter parce qu'il faut qu'en fait le mélange devienne très très mousseux. On rajoute un petit peu de poudre d'amande ou de poudre de noisette. On met ça dans un plat à gratin, on met les fruits dessous, on met cette préparation. Cette préparation, on va la détendre un petit peu avec le champagne qui reste, alors pas plus de 15 centilitres à peu près. Et vous mettez ça au four.
Et on met ça directement le champagne dessus?
Oui, et là, mélangé aux œufs. Hein. Vous avez un petit gratin de fruits original et vous avez utilisé les restes.
Et dis donc, c'est meilleur que... Enfin, pardon, c'est un avis personnel, mais je veux dire, c'est meilleur qu'une bûche. Parce que c'est pareil. Parfois, il y a des bûches, c'est un peu... On n'en peut plus, quoi. Donc, c'est pareil,
mais
quand
changeons,
il reste
voilà,
de la bûche...
Ça, c'est que,
qu'est-ce que vous faites avec une vieille bûche, vous?
Avec une vieille bûche, c'est plus dur. Hein. Alors, une vieille bûche glacée, rien, parce que là, je ne peux rien en faire, mais une vieille bûche... Alors, le problème de la vieille bûche, c'est que souvent, il y a de la crème au beurre, ou... c'est quand même assez riche. Alors, à part faire une sorte de petit pudding ou un truc comme ça, mais ça reste quand même un produit. Voilà, ça il faut malheureusement.
C'est spécifique la bûche, quoi. On est d'accord.
C'est un peu particulier. C'est pas tout à fait comme un cake où là, vraiment, on peut faire un peu comme des pains perdus, des puddings, etc. La blouse, elle est trop richement garnie. Oui, en fait, il y a trop de crème, de coulis de fruits, de choses comme ça. Donc, il faut un peu la manger toute seule.
Ouais, bon, bah voilà. Donc, qui n'en veut de la bûche, voilà, on n'a pas le choix. Là, on ne peut pas forcément en faire quelque chose. C'était super, comme d'habitude, Sonia Esguignan. Merci beaucoup
merci
de nous avoir
Ne vous laissez pas impressionner par les restes.
Ben non, mais grâce à vous, on va pouvoir faire plein de trucs. Et puis, la fête continue dans le frigo. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Je rappelle votre page Instagram, Sonia Esguignan, parce qu'on y trouve plein de choses, plein de bonnes recettes. Et ça nous donne toujours envie. Je vous remercie d'avoir été là. Bien évidemment, on va se faire cette semaine des bisous un peu particuliers parce que ce sont les bisous de Noël. Donc, je vous envoie des bisous. Merci à vous, Sonia. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous voilà bien. C'est fini pour aujourd'hui. Vous n'avez pas eu le temps de noter tous les bons conseils de nos invités. Séance de rattrapage en replay sur RTL.fr ou en podcast sur les plateformes dédiées. Quant aux recettes, c'est sur nos réseaux sociaux que vous pourrez les retrouver. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, évidemment, dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et la semaine prochaine, 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Reposez-vous. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.